Mission impossible. Mais notre mission est possible. Donc vous avez compris de quoi on va parler, hein? C'est possible, non, mais ça y est, c'est bon. Voilà, on va donc parler ce matin de la mission. La mission que Dieu nous confie. On en a déjà pas mal parlé hier soir, on a évoqué beaucoup de textes qui sont en rapport avec ce sujet, et j'ai essayé de faire, non pas une synthèse, parce que c'est extrêmement vaste et compliqué, mais d'aborder quelques aspects de la mission. Et on a quand même, dans la Bible, de grands exemples de mission. La mission de Jésus-Christ, qui était de réconcilier l'homme avec Dieu. Et, non pas aux surprises, mais ô gloire à Dieu, il a réussi. Et lorsqu'il a affirmé sur la croix, tout est accompli, eh bien, sa mission était accomplie. Il avait accompli ce que le Père lui avait demandé et ce pourquoi il était venu sur terre. Et en grec, ce verbe accompli, c'est téléo. Téléo que l'on retrouve aussi dans un autre passage qui concerne la mission de Paul. Ça, c'est aussi un des grands exemples. Paul était là pour apporter la parole, on peut dire sur la terre entière, parce que ça a commencé certes au niveau du bassin méditerranéen, mais ça s'est diffusé ensuite largement. Et si Paul n'avait pas commencé, cette parole n'aurait pas été aussi bien répandue. Et lorsqu'il dit « J'ai combattu le bon combat », eh bien, il a combattu le combat pour la parole, pour apporter la parole que Dieu lui avait donnée. « J'ai achevé la course », »,« J'ai achevé, accompli », c'est le même mot. Téléo. Jésus a accompli sa mission, Paul a accompli sa mission sur terre, en répandant la parole. Est-ce que nous sommes capables d'accomplir la mission que Dieu nous donne? Tant que nous sommes vivants, on ne peut pas dire qu'on l'a accompli, puisqu'on a encore quelques jours, quelques mois, quelques années que Dieu va nous donner, et seulement à la fin, mais ce n'est pas nous qui pourrons le dire, c'est Dieu qui pourra dire si nous avons accompli la mission qu'il nous avait confiée. Alors, quelle est notre mission? Quelle est-elle? Grande question. Quand on pense mission, on pense à peu près systématiquement au passage de Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Allez et faites des disciples, apportez la parole. Mais j'avoue que je suis toujours un peu gêné avec ce verset, non pas parce que je n'y crois pas, mais parce que je n'ai vraiment pas l'impression de l'avoir réalisé. Et là, pour le coup, je n'ai pas accompli cette mission. Et parce que lorsqu'on se réfère uniquement à ça, on a l'impression qu'il faut avoir une comptabilité du nombre de personnes que l'on aurait pu amener à Christ en apportant la parole. Et je ne pense pas que c'est sur le nombre que Dieu va nous juger. Bien sûr, il nous demande d'apporter la parole. Mais est-ce que c'est plus important d'en avoir amené 10 ou 100 ou 2, mais qui sont vraiment devenus des disciples? Parce que c'est ça qui est important. C'est que, et ça, les disciples, ce n'est pas nous qui pouvons le faire. On peut apporter la parole, mais après, devenir disciple, ça appartient à chacun. Nous, on ne peut pas faire des disciples. On peut les aider, on peut les accompagner. Mais c'est eux ou c'est nous qui décidons de devenir des disciples en acceptant la parole de Dieu, le sacrifice de Jésus, et en décidant de le suivre, avec tout ce que cela comporte comme discipline. Parce que n'oublions pas que disciple et discipline, c'est la même racine. Et on n'aime pas la discipline. Et c'est pour ça qu'on doit se poser la question, est-ce qu'on doit parler de mission ou de moisson ? La moisson, c'est quand on ramasse, c'est quand on fauche les blés et on compte combien on a ramassé de tonnes de blé. Mais je ne crois pas que Dieu nous demande de compter combien on a ramassé, entre guillemets, de nombre de personnes et combien on en a amené. Il faut apporter la parole. Et ça, c'est notre mission. Et j'ai pensé qu'on pouvait peut-être envisager deux types de missions. Il y a une mission que l'on peut dire pour soi-même et la mission pour les autres, la mission vers l'extérieur. Et la mission pour soi-même, eh bien, on en a parlé hier soir, chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Notre mission, c'est de chercher et de vivre le royaume de Dieu sur cette terre et de chercher la justice de Dieu, de vivre vraiment avec lui, dans le calme, comme l'a souligné Claude tout à l'heure, et pas forcément dans l'agitation. Dieu ne mesure pas notre efficacité à la façon dont on s'agite. On l'a bien vu au travers de cet exemple de Marthe et Marie. On peut avoir l'impression qu'on ne fait pas grand-chose, et pour autant, cette personne-là peut être extrêmement proche de Dieu et vivre vraiment la parole et la mission que Dieu lui a confiée. Dans Jean 4, il est dit « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui dit « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Et si on regarde bien dans ce texte, les vrais adorateurs, c'est ça que Dieu demande. Des adorateurs en esprit et en vérité. Et c'est ça que le Père demande. Avant toute chose, adorer, aimer, être conscient de ce que Jésus a fait pour nous. Ça, c'est la première mission que Dieu nous confie. Et si on ne l'accomplit pas, de toute façon, on ne pourra pas accomplir le reste. Parce que on n'aura pas l'Esprit. L'Esprit qui nous aide, qui nous fortifie, qui nous pousse. Encore une fois, je reprends quelques paroles qu'a données Claude. Hein. Quand l'Esprit est là, eh bien l'Esprit nous aide, l'Esprit nous fortifie. L'Esprit nous ressuscite, entre guillemets, lorsque nous sommes spirituellement affaiblis, voire même presque morts. C'est l'Esprit qui est là et qui peut nous redonner la force pour accomplir notre mission, et en particulier pour adorer. Et puis, il y a la mission vers l'extérieur, mais qui n'est pas faisable sans que la mission première, pour nous-mêmes, ait été réalisée. Cette mission vers l'extérieur, quelle est-elle ? Ça, c'est l'introduction. Je ne pense pas avoir jamais vu un seul épisode de Mission Impossible. Mais c'est la phrase qui introduit tout. Votre mission, si vous l'acceptez. Ça, c'est au cinéma. Mais dans la réalité de notre vie avec Jésus, la mission, puisqu'on lui a confié notre vie, on l'a acceptée. Elle peut être plus ou moins difficile, plus ou moins claire, mais on l'a acceptée. Donc, il n'est pas question de mettre ce petit « si ». Votre mission, vous l'acceptez. Et maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir l'accomplir ? Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Le Père nous envoie. Et lorsque Jésus est parti, il nous a laissé l'Esprit qui nous donne la force, qui nous donne la compréhension. Mais là encore, il nous envoie. Il nous envoie où ? Mais il nous envoie en mission. Vers l'extérieur, vers le monde dans lequel nous vivons, mais dont nous savons bien que nous sommes sanctifiés, au sens latin, entre guillemets, du terme. Sanctifiés, ça veut dire séparés. Et nous sommes saints parce que nous sommes séparés du monde. Nous y sommes par obligation, mais nous ne lui appartenons plus. Et Jésus nous dit « Je vous envoie ». Dans Marc 16, à peu près les mêmes paroles, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». Ça, c'est la mission que Dieu veut nous donner aussi. Et on revient sur ce passage de Matthieu 28, 19. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Mais la mission, qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour pouvoir accomplir une mission, il faut d'abord la comprendre. Et comprendre, c'est pas évident. On lit les paroles, on les comprend. Mais est-ce que pour autant ça veut dire qu'on comprend pour nous-mêmes ce que ça signifie? Est-ce qu'on comprend bien la mission que Dieu veut nous donner, qui est une mission personnelle? Il y a bien sûr les phrases génériques qui s'adressent à tout le monde, mais après, chacun a une mission personnelle. Chuck a une mission qui n'est pas la même que celle de Raymond, Anita que celle d'Angèle. Mais est-ce que ce point d'interrogation, on peut le transformer en point d'exclamation disant « J'ai compris, alléluia ». Difficile, n'est-ce pas? Et une fois qu'on a compris, et là je ne vous demande pas, on n'est pas dans les circonstances où chacun doit dire « moi j'ai ici, c'est... » Non, non, chacun a compris sa mission personnelle ou s'interroge encore. En dehors de la mission qu'on a définie au début, d'être des adorateurs en esprit et en vérité. Ça c'est clair. Mais après la mission vers l'extérieur, c'est moins évident. Et pour accomplir cette mission, eh bien, dans le monde, mais aussi vis-à-vis de notre mission spirituelle, il y a un ordre de mission. Moi, je connais bien en tant que militaire, et j'entendais hier Joël qui parlait d'OM. Hein, lorsqu'il va en déplacement, il demande un OM, un ordre de mission. Et l'ordre de mission, c'est en quelque sorte un contrat entre le patron et le salarié, ça c'est dans le privé, c'est dans le séculier. Mais il y a un contrat. Le patron dit, vous allez faire ça. Et le salarié dit, bien chef. Lorsqu'il a compris, lorsqu'il sait ce qu'il doit faire. Mais pour qu'il y ait cette relation patron-salarié, Dieu-chrétien, eh bien il faut un certain nombre de conditions. Et le patron... D'abord, il donne des ordres. Et on retrouve dans la parole un certain nombre de passages, dans Josué par exemple, où il est dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre ?» Mais l'ordre, c'était d'aller quelque part, mais « Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Lorsque, encore une fois, le patron, c'est un mauvais terme vis-à-vis de Dieu, mais si on veut faire le parallèle, avec ce qu'on peut vivre dans le monde, lorsqu'on travaille, le patron est là, certes, pour donner la mission, mais pour donner les moyens de l'accomplir. Et pour protéger son salarié, pour le guider. Il ne s'agit pas de lui dire « va là-bas » avec simplement un sac sur le dos et accomplis je ne sais quel travail. Non. Va, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dans Juges 6, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Moi, Dieu, je t'envoie, toi, Gédéon. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Il est un homme et il se sent totalement incapable de remplir cette mission que Dieu lui donne. Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Mais l'Éternel lui dit, « Je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Dieu envoie, mais Dieu équipe. Il donne la force, il donne les moyens d'accomplir la mission qu'il nous donne. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Ça ne vous rappelle pas parfois nos réactions ? Dieu nous dit, « Je t'envoie, je t'équipe, je te donne la force. » Et puis, bon, quand même, je suis toujours petit, je suis toujours faible et je ne pourrais pas y arriver. Mais non, l'Éternel est avec nous. Et c'est ça qui doit être notre soutien, notre réconfort, notre assurance. Et reprendre pour nous-mêmes. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc lorsque Dieu nous donne une mission, lorsque nous l'avons comprise et que nous essayons de l'accomplir, on peut avoir l'assurance qu'il est avec nous et qu'il va nous aider. Qu'il ne nous envoie pas, comme on dirait virgulement, au casse-pipe. Non, il ne nous donne jamais quelque chose que nous ne pourrions pas accomplir et ne nous fait pas vivre des choses que nous ne pourrions pas supporter. Parce que Dieu est avec nous, est un Dieu bon, qui nous connaît tellement mieux que nous. Donc il sait très bien. Et parfois, si on ne réussit pas, c'est aussi parce qu'on n'a pas compris la mission. Parce qu'on a voulu peut-être en faire trop. Aller au-delà de ce que Dieu nous demande. Et ça, c'est pas juste. Dans Marc 16, au verset 19, il est dit « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Donc déjà à l'époque, Jésus n'était plus là. Il était enlevé au ciel. Mais il continuait à travailler avec eux. Et ça, c'est encore vrai pour nous aujourd'hui. Le Seigneur, c'est vrai, il est plus vivant. Au milieu, enfin physiquement, parmi nous. Mais il nous a laissé l'Esprit, le Consolateur, celui qui nous permet de comprendre les choses et d'être toujours en liaison, et celui qui nous revivifie, qui nous redonne la force et qui nous permet justement d'aller de l'avant, d'aller dans notre mission. Il y a quelques exemples dans la parole où il est affirmé par les intéressés eux-mêmes que le Seigneur est là. Dans la deuxième épître de Timothée, il dit, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent et j'ai été délivré de la gueule du lion. Donc Paul lui-même affirme qu'il a été supporté, qu'il a été aidé par le Seigneur, qui n'était plus vivant. Ça, c'est le rôle du patron, de Dieu. Il nous envoie en mission, mais il nous donne les moyens de l'accomplir. Ensuite, à nous, les salariés, comme j'ai intitulé, les disciples, d'accomplir cette mission. Et encore une fois, dans Josué, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès d'entrée de l'entreprise, c'est alors que tu réussiras. Fortifie-toi et prends courage. Comment ? En respectant les commandements et tout ce qui est écrit dans la parole. Et pour nous, c'est pareil. Fortifie-toi et prends courage, mais respecte, lis la parole, imprègne-toi de cette parole, et alors tu auras du succès dans tes entreprises. Parce que la parole, c'est la parole de Dieu, c'est la parole vivante. C'est Dieu qui nous parle au travers de sa parole. Bien sûr, son esprit est là, mais son esprit est dans la parole. Et c'est cette parole dont on doit s'imprégner. dans Luc 14, il est dit, si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. On a beaucoup discuté sur ce verset. Je ne crois pas que ça veuille dire qu'il faut mettre toutes nos familles qui ne sont pas chrétiennes à l'écart et les rejeter totalement. Mais ça veut dire que notre priorité doit être avec Jésus. Et que si parfois, ça implique effectivement de se séparer, au moins pour un temps, de nos familles, eh bien, il faut le faire. Si nos familles ne sont pas d'accord avec nos choix, eh bien, il faut le dire clairement, mais ne pas les suivre eux, mais suivre au contraire ce que nous enseigne le Seigneur. Jean 14, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si on veut accomplir la mission que Dieu nous donne, eh bien, il faut garder ses commandements. Ses commandements, ce n'est plus la loi en totalité, telle qu'elle était à l'époque, puisque nous sommes maintenant sous la grâce. Mais pour autant, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et Dieu nous indique un certain nombre de choses à faire, à respecter, à entretenir, respecter mes commandements. On est libre au travers de la mort de Jésus-Christ, mais pas libre de faire n'importe quoi. Il nous a libérés du poids du péché, mais il nous indique maintenant, il nous donne la bonne voie, le bon moyen d'aller de l'avant et d'accomplir la mission pour laquelle nous sommes sur cette terre. Encore, comme je l'ai dit hier soir, je ne vais pas vous faire la lecture de tout Hébreux 11, hein, mais c'est par la foi. Et ensuite, il y a la déclinaison, il y a la liste de tous les serviteurs, tous ceux qui ont plu à Dieu. Et ça commence par la foi. Et si nous voulons plaire à Dieu en accomplissant la mission, eh bien, c'est d'abord en manifestant notre foi et en la vivant profondément. C'est par la foi que tous ont accompli ce qu'ils ont fait sur cette terre. Quand on a compris la mission, quand on a décidé, ben après, il faut s'y attaquer. Mais il ne faut pas aller comme ça à tout vent. Il faut être organisé, si j'ose dire. Lister et planifier les tâches. Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Notre mission d'apporter la parole aux autres, de témoigner, c'est ça aussi. Il ne faut pas dire « Ouais, je vais faire ça, vous allez voir. » Et puis, on n'y arrive pas. D'abord, Dieu nous enseigne à prendre la mesure de ce qu'il nous demande et de ce vers quoi on s'engage. Si on dit, et même en milieu chrétien, si on prononce des paroles sans avoir mesuré les conséquences et la façon d'y arriver, c'est un contre-témoignage absolu. Et en plus, vis-à-vis des non-chrétiens, vis-à-vis de nos familles, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, d'abord, essayons de bien comprendre ce que Dieu nous demande, et ensuite, demandons-lui conseil pour voir comment le réaliser. Ne pas tout de suite nous agiter, mais être comme Marie, qui avait choisi la bonne part, qui était auprès de Jésus, et qui, pendant ce temps-là, pouvait recevoir de lui ses consignes, ses commandements. Et nous-mêmes, j'ai pas d'exemple en tête, mais on peut en lire beaucoup, des serviteurs de Dieu ou de simples chrétiens, entre guillemets, parce que nous sommes tous appelés à faire de grandes choses, ont déclaré, ont fait des grandes déclarations et n'ont pas réussi, parce qu'ils se sont précipités, parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'examiner les moyens qu'il leur fallait, des moyens spirituels, mais aussi parfois des moyens matériels. Et donc, prenons le temps d'examiner avant de nous précipiter. Et quels sont les obstacles à notre mission, à la réalisation de notre mission? Il y a d'abord les autres. Les autres, c'est-à-dire ceux qui sont à l'extérieur. Dans Marc 6, il est dit « Alors il appela les douze et il commença à les envoyer deux à deux en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture. » Là, pour le coup, ils étaient bien équipés. Hein. Un bâton, c'est tout. « De chausser des sandales et de ne pas revêtir deux tuniques. » Puis il leur dit « Dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. » Là, la mission d'apporter la parole et l'équipement, il était pour le coup un peu léger. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds afin que cela leur serve de témoignage. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons, ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Si quelque part des gens ne vous reçoivent ou ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds. On pourrait dire que c'est contraire à la mission que Dieu nous donne d'apporter la parole. Mais est-ce que Dieu nous demande d'être des envahisseurs, des gêneurs, des... Bon, il faut donner le témoignage. Mais est-ce qu'il faut essayer de faire rentrer un coup de Bible dans leur tête lorsqu'ils n'en veulent pas? Il a dit clairement aux apôtres, secouez vos pieds et partez. Et je crois que parfois, il faut se retirer, continuer à prier pour eux, ça n'empêche pas, mais c'est pas la conversion par force, hein, par l'épée, comme malheureusement on l'a vu en certains temps. Continuer à prier pour eux, mais c'est pas nous, de toute façon, qui pouvons convertir quelqu'un. C'est que l'Esprit qui viendra leur parler et les convertir. Et donc, les autres peuvent parfois, en eux-mêmes, être des obstacles à la réalisation de notre mission. Parfois, c'est le malin. Mais j'ai mis entre parenthèses, ou les hommes. Parce que on peut dire parfois, ou croire que c'est le malin, mais ça peut être simplement les hommes. Mais les hommes qui peuvent être aussi éventuellement agités, détournés par les esprits mauvais, par les esprits malins. Dans Matthieu 16, qu'est-ce qu'il nous est dit? Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il s'offrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Ça, c'est la vérité. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ça, c'était l'accomplissement parfait de sa mission. C'est ce qui a précédé l'instant où il a dit « Tout est accompli ». Mais Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas ». Parce que Pierre, à ce moment-là, n'a pas eu confiance, n'a pas cru. Et parfois, ça peut se passer aussi entre nous. Certains, et ça a été aussi évoqué hier soir, parfois, certains de nos amis proches, non chrétiens, ou même parfois chrétiens, nous disent « Non, ce n'est pas possible. Tu n'y arriveras pas. Ce n'est pas ce que le Seigneur te demande. Ce n'est pas si. Ne fais pas ça. » Et on se détourne et on s'arrête. Et on se trompe. Là, c'est évident, Pierre s'est trompé, il l'a reconnu. Mais nous, on peut parfois être détournés de notre mission par des gens qui nous veulent du bien. C'est pas, mais parce qu'ils ont un peu peur, peut-être. Parce qu'ils trouvent que ce vers quoi on s'engage, ce que le Seigneur nous appelle à faire est trop grand pour nous, trop difficile. Et ils nous disent non. Non, c'est pas possible. T'as pas la force, t'es pas assez bon. Et à ce moment-là, je crois qu'il faut s'arrêter et prier. Parce que si c'est vraiment ce que le Seigneur demande, Il nous le dit, il nous donnera la force, il nous équipera, il nous donnera les moyens. Et ça peut paraître gigantesque, ça peut paraître inatteignable, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Et ce n'est pas parce que les autres nous ont dit qu'on n'était pas capable. Donc, n'écoutons pas forcément, je ne dis pas qu'il ne faut jamais écouter, mais n'écoutons pas forcément ce que nous disent même nos plus chers amis. C'est dans des circonstances très particulières, mais un jour j'avais vraiment reçu cette parole. Dans les grandes décisions, il n'est pas bon d'avoir égard aux hommes. C'est dans la Bible. Je ne connais pas exactement le verset, mais c'est un jour où je devais aller voir un patron pour lui dire « j'arrête ». J'étais sûr qu'il n'allait pas aimer. Eh bien, il n'a rien dit. Il m'a compris. Parce que je lui faisais de la peine, mais je sentais qu'il fallait que j'arrête. Donc je suis allé le voir, et le Seigneur m'avait encouragé par cette parole. Et tout s'est bien passé. Donc, attention, dans le bon sens et dans le mauvais sens, à ce que peuvent nous dire les autres. Prenons garde, prenons en considération, mais avant tout, prions le Seigneur pour qu'il nous donne exactement ce qu'il veut de nous. Et parfois, c'est nous-mêmes. Eh oui, Claude, c'est nous-mêmes qui sommes des obstacles à notre mission. Parce qu'on n'arrive pas à faire ce que Jésus nous demande. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Si on veut suivre Jésus, eh bien, il y a des choix à faire, des concessions à faire. La troisième question hier soir était « Est-ce que ma vie plaît à Dieu ?» Est-ce que les choix que je fais lui plaisent? Est-ce que je suis suffisamment droit avec ce qu'il me demande? Est-ce que j'accepte parfois un certain nombre de choses qui me paraissent être des sacrifices, mais des sacrifices matériels, un confort de vie, un temps passé à autre chose qu'à lire la parole ou à prier? Encore une fois, je suis loin d'être parfait, rassurez-vous. Mais c'est comme ça. Et la troisième partie de la question était « Que dois-je faire pour que ma vie plaise à Dieu ?» Eh bien, réfléchir sur ce qu'on n'a pas fait, réfléchir sur ce qu'on pourrait ou devrait faire. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Renoncer à soi-même, renoncer à des plaisirs. Parce que Dieu n'est pas pendant ce temps-là avec nous, parce que nous lui volons un peu de temps, mais qu'il porte sa croix parce que ça va nous coûter quand même un peu d'abandonner ce qu'on aime pour aller plus vers Dieu. Mais c'est comme ça que Dieu nous pourra nous aider à accomplir ce qu'il veut pour nous. Et enfin, après avoir reçu la mission, l'avoir comprise, l'avoir exécutée, il y a toujours un compte-rendu de mission. Quand on revient d'un endroit où on a été envoyé, encore une fois, dans le monde séculier par notre patron, il faut lui dire, ben voilà chef, j'ai fait ce que vous m'avez demandé, j'ai trouvé ça, j'ai fait ci, est-ce que c'est bien? Eh bien le Seigneur, lui, il nous juge aussi sur la réponse que l'on donne à la mission qu'il nous donne, sur la façon dont on l'accomplit et sur le résultat. Et on aimerait tous que le Seigneur nous dise ces paroles, c'est bien bon et fidèle serviteur, comme il est dit dans la parabole des talents. C'est bien bon et fidèle serviteur. Avoir accompli ce qu'il nous demandait, avoir fait fructifier ce qu'il nous donnait, et ensuite revenir vers lui. Il nous dira, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Et là, c'est vrai qu'on est heureux lorsqu'on a accompli quelque chose et lorsqu'on sent que le Seigneur est content de nous. Il ne faut pas qu'on en tire orgueil ni fierté, parce que c'est grâce à lui qu'on a pu le faire. Mais pouvoir se dire, entrer dans le repos en se disant, Dieu m'avait demandé, j'ai réussi, j'ai fait, grâce à lui. Et je peux, pour cette occasion, être considéré comme un serviteur bon et fidèle. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour le fera connaître, parce que se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Encore un passage qu'on a cité, médité hier soir. Il n'est pas question que Dieu nous refuse ce qu'il nous a donné de plus cher, le plus précieux, c'est notre salut. Mais nous aurons tous à nous présenter devant lui. Et à ce moment-là, eh bien, il nous dira, tu n'as pas forcément, dans ces circonstances, été un serviteur bon et fidèle. Je te le fais remarquer, je te le dis, parce que c'est la vérité, parce que je t'aime. Tu es toujours auprès de moi, mais voilà. Il y a des choses que tu n'as pas faites comme je le voulais. Et c'est une question qui doit nous... Enfin, qu'on doit se poser. Parce que si ça nous tourmente, ça va nous inhiber. Parce que on se sait insuffisant. On se sait encore pécheur. On se sait encore parfois mauvais serviteur. Mais si on est sans arrêt en train de se dire... « Oh non, vraiment, tout ce que je fais, c'est pas bien, c'est pas bon, c'est... » C'est en même temps déshonorer la confiance que Dieu a mise en nous. On rate parfois, on rate le but. Mais Dieu est quand même avec nous. Et il veut que nous continuions à avancer, malgré nos insuffisances. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Nous aurons à rendre compte, mais Dieu nous accueille, parce que Dieu nous aime. Et il est dit dans la parole, faites tous vos efforts. Et nous avons des efforts à faire. Mais nous savons que Dieu est là auprès de nous. Et que la mission qu'il nous donne, il l'accomplit. Avec nous, au travers de nous, parce qu'il aime se servir de ses enfants. Il est tout puissant, affirme-t-on, mais il veut utiliser nos pauvres faiblesses, nos pauvres êtres, pour apporter et accomplir sa parole dans le monde.